Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Place aujourd'hui à une carte blanche, ces épisodes liés à des productions journalistiques qui ne sont pas parues chez nos médias partenaires, mais qui ont un lien fort avec le territoire. Et nous allons évoquer un documentaire qui sera diffusé ce soir à 22h55 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, disponible en replay sur le site de la chaîne pendant un mois. Il s'appelle L'héritage d'Aristide et c'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Patrick Serodi.
Bonjour.
Patrick, avec vous, nous allons évoquer la vie d'un juste parmi les nations, Aristide de Sousa Mendes, un consul du Portugal à Bordeaux qui a sauvé des milliers de personnes durant la Seconde Guerre mondiale. Son action est souvent comparée à celle d'Oscar Schindler, rendu célèbre par le film de Steven Spielberg. Nous allons bien sûr détailler son parcours durant la guerre, mais évoquons d'abord la vie qu'il a eue avant cette Seconde Guerre mondiale. C'est un homme qui a déjà 55 ans quand elle éclate. Il est issu d'une famille aristocratique. À quoi ressemble le milieu dans lequel il évolue ?
Bah, c'est un milieu, comme vous l'avez dit, aristocrate, où on peut se marier avec des cousines ou des cousins. C'est la grande aristocratie portugaise, originaire d'un petit village près de Coimbra. Donc, ils ont fait l'université à Coimbra, les deux frères jumeaux. Et les deux suivent une carrière diplomatique. Son frère jumeau, César, sera même ambassadeur, voire même à un moment donné, mais de manière très courte, ministre des Affaires étrangères.
Alors, Aristide est donc nommé à Bordeaux quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale, mais il fait partie de ceux qui comprennent très vite la nature du régime nazi, grâce notamment à son frère jumeau César, que vous avez cité, c'est ça ?
Tout à fait. En fait, il est nommé à Bordeaux, il était à Anvers avant, en Belgique, et il est nommé à Bordeaux en août 1938. Et effectivement, son frère, en septembre 1939, au moment de l'invasion nazie en Pologne, est ambassadeur à Varsovie et il va être le témoin de la violence des nazis et il va bien évidemment en informer son frère régulièrement et donc Aristide sait ce dont sont capables les nazis quoi. I saw the teachers yelling, give it to blood dripping from their picket signs. They missed the irony that the peaceful protest had long been dead. You see, they didn't want to have their masters climbing up and into their heads anymore. And I'll ignore all the glints in their eyes. My mind, what a sight. See it as a sign, since it reminds me of the time I saw Nazis on the Northern Line.
Le Portugal connaît depuis une quinzaine d'années, au moment où la guerre éclate, une dictature militaire sous le joug de Salazar. Une circulaire est très vite édictée qui interdit la délivrance de visas à un certain nombre de catégories de personnes, parmi lesquelles celles de confession juive. Mais très vite, Aristide de Sousa Mendes va enfreindre cet ordre et délivrer indûment d'abord quelques visas dès 1939. Il sera d'ailleurs rapidement sanctionné.
Oui, en fait, donc c'est la fameuse circulaire numéro 14 du 11 novembre 1939 qui interdit effectivement à toute une catégorie de population de rentrer au Portugal. Et le Portugal est censé être un pays neutre à l'époque. Toutes ces catégories, en fait, correspondent à peu près à tous les réfugiés qui peuvent avoir un risque avec le régime nazi. Et effectivement, Aristide, très 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 vite, dès le début de 1940, va commencer à délivrer des visas et d'ailleurs sera rappelé à l'ordre par rapport à deux visas qu'il émet Et il sait très bien que lorsqu'il décide, à partir du mois de mai, au moment où il y a vraiment beaucoup de réfugiés qui arrivent sur Bordeaux, il sait très bien qu'en faisant ce qu'il fait, il va vers un procès disciplinaire qui va se passer au mois de juillet, effectivement.
Oui, parce qu'en mai et surtout en juin 1940, c'est la débâcle. Le gouvernement français se retrouve réfugié à Bordeaux, en zone libre. Aristide de Souza Mendes voit arriver en Gironde des dizaines de milliers de réfugiés. Et à la mi-juin, il prend une décision qui va changer le cours de sa vie et surtout sauver des milliers de personnes. Il va délivrer des visas à tour de bras, mais presque au sens littéral. Hein.
Oui, en fait, ce qu'on essaye de montrer avec Éric Le Breton, qui est la personne qui témoigne dans le film, qui a écrit un livre sur Aristide, en fait, il y a une histoire qui est racontée qu'il aurait pris cette décision le 17 juin 1940 après être resté pendant deux jours entiers dans sa chambre enfermé, mais en fait on se rend compte que quand on regarde les livres des visas accordés que déjà durant tout le mois de mai et tout le mois de juin c'est presque 700 visas qu'il avait déjà accordés avant qu'il décide de d'ouvrir le consulat le 17 juin pour délivrer les visas à tout le monde.
Et là, il va vraiment passer à un stade presque industriel. En quelques jours, il va délivrer certains jours 200, 250 visas.
Oui. Et en fait, il demande à tous les gens qui sont au consulat, bien évidemment le secrétaire du consulat, mais aussi les gens de sa famille, le rabbin Kruger, ils organisent en fait une chaîne pour délivrer le maximum de visas à tout le monde. Quoi.
Alors on le rappelle, hein, Aristide de Souza Mendes a déjà été sanctionné pour avoir délivré quelques visas. Il sait parfaitement, en accordant des milliers, qu'il risque très gros.
Ah ben bien sûr, il le sait et il est d'ailleurs rappelé dès le début juillet, il est rappelé au Portugal pour subir ce fameux procès disciplinaire. Mais en fait, voilà, le film aussi pose la question de la désobéissance, quoi, bien évidemment.
Et durant ce rappel hein, qu'il amène de Bordeaux au Portugal, eh bien, il va continuer à délivrer des visas sur la route et notamment avec l'aide de son vice-consul à Bayonne.
Une fois qu'il a délivré le maximum de visas à Bordeaux, il se rend à Bayonne, où il y a aussi un consulat du Portugal. Comme il est responsable du consulat de Bayonne, il impose au vice-consul de Bayonne de délivrer les visas sous sa responsabilité, ainsi qu'à Toulouse, où il y a un consul honoraire qui est français, lui. Il lui dit aussi de délivrer tous les visas qu'il peut. Quoi.
Bien évidemment, tous ces visas vont permettre à ces personnes de passer au Portugal, parfois de rester dans le pays, ou parfois de partir notamment vers les États-Unis. Vous l'avez dit, en juillet, il est rappelé au Portugal, il y arrive donc, et il va subir son procès. Quelles vont être les sanctions prises à son égard, et notamment décidées par Salazar lui-même ?
Il va être mis à pied et à la retraite, et en touchant la moitié de sa solde, et donc c'est là où ça va commencer à se compliquer pour lui, parce qu'ils n'ont plus les moyens, et Salazar en fait une affaire personnelle, en fait. Salazar ne souhaite pas que cet événement fasse du bruit, donc en fait veut enterrer cette histoire, donc c'est un petit procès disciplinaire. Aristide est mis à la retraite et Aristide va essayer régulièrement de rencontrer Salazar, mais il ne pourra jamais le rencontrer, et Salazar va tout faire pour que même la famille, puisque Aristide avait une famille nombreuse, 14 enfants, la famille va être, tous les enfants vont être obligés de quitter le Portugal parce que toutes les portes sont fermées, et la famille va aller aux États-Unis, au Canada, enfin en Afrique, dans les colonies belges. Enfin, tous les enfants vont être obligés de partir, et ça va créer un important traumatisme au sein de la famille. Ce que raconte en fait dans le film Olivia Matisse, qui va créer bien plus tard la fondation américaine Souza Mendes, quand elle apprendra quel a été le traumatisme au sein de la famille pour avoir sauvé des gens comme son père à elle.
As palavras que eu vou cantar são de Aristides de Souza Mendes, homem honrado de amor incondicional. vaniedade dos seus atos sejam eternas. E sem medo escreveu estas palavras. Se há que desobedecer, prefiro que seja uma ordem dos homens do que uma ordem de Deus. Rezo-me de ter recebido de meus pais um nome limpo e honrado, que me cumpra manter e transmitir aos meus filhos íntegro como herdei.
Alors c'est donc la déchéance pour Aristide de Souza Mendes. Il va mourir sans un sou quelques années après la guerre.
Oui, oui, c'est ça. Il va mourir dans la plus grande déchéance et surtout sans que son action soit reconnue, puisque son action va être reconnue beaucoup plus tard, mais très tard après la dictature.
Oui, on va en parler justement. Patrick, est-ce que l'on sait combien de personnes ont été sauvées par Aristide de Souza Mendes?
En fait, des chiffres sont estimés, mais c'est difficile. On estime que c'est autour de 30 000 personnes à peu près.
En 1966, le mémorial de Yad Vashem en Israël l'honore du titre de juste parmi les nations. Pendant longtemps, ses enfants et ses petits-enfants, vous l'avez évoqué, se sont aussi battus pour obtenir sa réhabilitation dans son pays, puisqu'il restait condamné aux yeux de la justice portugaise. Elle est venue en 1986 seulement, et l'année dernière, le Parlement portugais a même voté l'entrée d'Aristide de Souza Mendes au Panthéon national. Pourquoi cette réhabilitation a-t-elle été si difficile et si tardive ?
En fait, la dictature a duré très longtemps, et effectivement, après la dictature, il a fallu plus de 10 ans pour qu'on commence à reconnaître son action et qu'il devienne un personnage important de la nation. La première reconnaissance vient des États-Unis, notamment par le travail de ses enfants aux États-Unis. Il y a des puissantes communautés juives. Et donc, c'est ainsi que Aristide est nommé juste en 1966. En 1966, c'est un des premiers à être nommé juste parmi les nations. Et la reconnaissance donc vient beaucoup des États-Unis, du Canada. Et effectivement, il va falloir beaucoup de temps pour qu'Aristide soit reconnu. Et effectivement, l'année dernière, donc en juin 2020, le Parlement portugais a voté à l'unanimité l'entrée au Panthéon national d'Aristide. Mais ça aura pris beaucoup de temps, effectivement.
À Bordeaux et dans la région, quelles traces restent-ils d'Aristide de Souza Mendes? Est-ce que l'on se souvient là aussi de son action?
Il y a un comité français Souza Mendes qui œuvre depuis longtemps. D'ailleurs, moi, c'est avec eux que j'ai commencé à travailler sur ce projet. Donc, qui œuvre depuis longtemps pour communiquer sur l'action d'Aristide. Je sais qu'ils ont fait qu'il y a eu un buste qui a été installé à Bordeaux. Il y a une plaque devant l'ancien consulat quai Louis XIV à Bordeaux qui explique son action. Ils viennent justement pour le 80e anniversaire des événements. Ils ont fait l'année dernière une exposition aux archives départementales, bon, qui a été un peu perturbée à cause des conditions sanitaires. Mais en tout cas, ce comité était engagé dans la communication de cette action. Il y a la fondation ensuite américaine et il y a aussi une fondation au Portugal.
Du bist nicht mein erster Sohn, ich hab gehabt das Sachazon, ich will noch verschreiben euch dein Namen in einem Zettel, wo seht sich an mit Omen. Omen Antiochus, doch wie Made Krusche, wann oben die Welt verhiebt, ist früher noch vor dir. Ein langer Zettel, Omen, sie ist verrannt, es wird nicht stehen, kein Papier. Hat ihr alle sich ein Ziel gestellt, mich hopp zu machen von der Welt, nur nicht an euch ist es gewendet. Stalin wird schon kurz an euch die Hand.
Pour votre documentaire, vous avez choisi de faire parler des enfants et petits-enfants, à la fois d'Aristide et Souza Mendes, mais aussi de personnes qui ont été sauvées par lui. Pourquoi ce choix?
Parce qu'en fait, pour moi, enfin, le film s'appelle L'héritage d'Aristide, parce qu'aujourd'hui, il était quasiment impossible de faire un film qui raconte par les témoins les événements, puisque les témoins, ils ont quasiment tous disparu, à l'exception de quelques enfants qui avaient 6-7 ans à l'époque. Donc, du coup, j'ai préféré réfléchir et montrer quel était l'héritage de cette action. Et pour moi, le premier héritage de l'action d'Aristide, c'est toutes les familles qui ont été sauvées et qui sont dispersées dans le monde aujourd'hui, quoi. Et donc, voilà, l'idée, c'était dans un premier temps, de faire parler les gens qui ont été sauvés ou les gens qui ont pu exister parce que leurs parents ont été sauvés par Aristide. C'était pour moi le premier héritage vraiment très fort, quoi, parce qu'en fait, il a vraiment sauvé ces vies-là. Et l'idée, c'était dans le film de montrer les racines francophones de toutes ces familles. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont des descendants de ces familles sauvées s'expriment en français parce qu'ils viennent tous de Belgique, de France. C'était important aussi de montrer que même de l'autre côté de l'Atlantique, ces gens avaient toujours leurs racines francophones.
Oui, puisque Aristide de Souza Mendes a notamment vécu quelques années au Canada avant de revenir mourir au Portugal. Quels sentiments, Patrick, vous reviennent en repensant à ces témoignages ?
Ah ben moi, pour moi, mon travail, c'est vraiment depuis 15 ans de questionner la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France. Et donc, moi, mon sentiment, c'est vraiment de mettre l'accent sur la transmission, parce que voilà, on se rend compte. Enfin, quand on voit le film, il y a des témoignages où par exemple, Cookie Fisher qui raconte que sa mère donc a bénéficié d'un visa de Souza Mendes, qu'elle a pu prendre un bateau à Bayonne, un bateau à Sardine pour aller au Portugal, et elle a découvert cette histoire bien plus tard quand elle a trouvé les archives de sa mère et notamment un journal que sa mère a écrit. Sa mère ne lui avait pas raconté tout ça, quoi. Et donc, pour moi, c'est quand même essentiel de questionner cette transmission ou la non-transmission selon les cas, quoi.
Merci beaucoup, Patrick Serodi, d'avoir répondu aux questions de Podcasting. Je rappelle le titre de votre documentaire à retrouver ce soir à 22h55 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle « L'héritage d'Aristide » et il est à la fois passionnant, émouvant et même très poétique. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feignet, Marion Ruot et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.